Chapitre 8 Catastrophe. Au lever du jour, le cheval noir de Burleff traversa rapidement la vallée de Blaisdell, emportant vers les bois son cavalier muni d'armes et de provisions comme pour une longue route. Les jours suivants, on n'eut aucune nouvelle de Frazier ni du maître d'école. Tous deux avaient disparu dans la direction du Grand Désert. Si le lecteur y consent, nous reviendrons à l'oncle Jerry. Avec ses hardis compagnons, il avait continué la chasse jusqu'aux frontières du Labrador sur le territoire du Canada. Mais après avoir exploré pendant quelques jours le théâtre de ses anciens exploits, le vieux chasseur campa sur la rive du Madawaska et ordonna les préparatifs du retour. Dans la soirée, un bruit de voix s'éleva au milieu du silence. La petite troupe crut entendre des cris, une dispute. Puis deux coups de feu retentirent presque en même temps. Quelques secondes après, la détonation plus retentissante d'une carabine cingla l'air et la solitude redevint silencieuse.
« C'est quelques bandes de chasseurs, » observa le brigadier. « Je suis bien aise de ne pas me trouver sur la route sans savoir à qui nous aurions affaire. Quel malheur que Burleff ne soit plus avec nous. Je comprends rien à sa brusque disparition. »«
N'a-t-il pas un cheval noir maintenant ?» demanda le voisin Smith, récemment arrivé du camp.
« Mais il n'en prend jamais d'autre, » répondit Luther. «
Eh bien, je crois avoir vu passer comme une flèche avant-hier, monter sur une superbe bête.
Oh, il suivait les fourrés comme s'il voulait éviter d'être vu.
Je l'ai reconnu lorsqu'au sortir de la grande clairière, il a lancé son cheval à la nage pour traverser la rivière. Il avait l'air d'un homme qui chasse un tout autre gibier que le mousse.
« Ce ne doit pas être ivri, » répondit le brigadier. « Il nous aurait déjà rejoint. D'ailleurs, Black Prince était resté à la ferme. Burleff l'avait laissé en réserve pour accomplir le grand voyage qu'il doit faire avant la conclusion de son mariage.
Black Prince est un rude cheval, observa Luther. Le soir du grand tapage à la maison, il défonça sa stalle, sauta par-dessus les barrières et aurait disparu pour toujours si Jerry Tedgen n'avait pas eu des yeux perçants.
Diable, qu'allons-nous faire maintenant? Irons-nous en avant ou en arrière? Demanda le brigadier.
Oh, si notre frère Ned était ici, répliqua Bob Frazier, il nous donnerait un bon conseil. Il connaît tous les Indiens du Canada, lui. Les Ottawas avaient fait de lui une sorte de chef.
Eh bien, tant pis, retournons au camp, continua le brigadier. Que la peste m'enlève si je ne sais où sont allés ces deux gaillards.
Sur ce propos, la petite troupe fit volte-face et reprit sa route sur la lisière du grand bois où avaient retenti trois coups de feu quelques instants auparavant. La nuit était venue, assombrissant les forêts solitaires. Tout à coup, nos chasseurs se trouvèrent, sans avoir rien entendu, à quelques pas d'une longue file d'Indiens. Ces guerriers sauvages, marchant dans un parfait silence, suivaient une piste unique, chacun mettant le pied dans la même empreinte. On aurait dit des ombres noires glissant sur la neige. Le brigadier s'arrêta brusquement. La vision indienne disparut promptement sans paraître accorder la moindre attention aux faces pâles. Au même instant, le brigadier prêta l'oreille à un cri sourd et lointain.
« Qu'est-ce que cela ? Murmura-t-il. Entendez-vous rien ?
« Oui, » fit Luther, « mais je distingue pas bien. » Et il se redressa, plaçant sa main ouverte contre l'oreille pour mieux écouter. Jusqu'à son arrivée chez lui, le brigadier n'avait pas hésité à penser que Ned Frazier avait péri dans une querelle avec quelque Indien du Canada. Cette hypothèse réalisait les pressentiments de mauvais augure que le vieillard avait exprimés lorsque le jeune téméraire eut détruit le piège à mousse qu'il avait précédemment rencontré. Mais, en apprenant qu'après la scène violente dont Lucie avait été la cause involontaire, Burleff et Edward avaient disparu, sans que depuis lors on eût reçu de leurs nouvelles,
Le bon brigadier fut agité de soupçons pénibles contre son jeune ami, le maître d'école. Et ce fut bien pis encore lorsque des rameurs dignes de foi vinrent apprendre que Burleff avait été vu courant toute hâte vers le désert sur son cheval noir, et que sur un rayon de plus de 100 000, on ne l'avait plus revu. Et plus tard, il fut rapporté que le jeune homme avait laissé chez un voisin son fusil à deux coups et l'avait échangé contre une carabine. Enfin, il fut constaté que le maître d'école, mettant de côté toutes ses chaussures civilisées, était parti chaussé de mocassins indiens. Luther lui-même l'avait remarqué pendant la chasse. Le pauvre oncle Jerry fut atterré. Les soupçons semblaient se changer en horribles certitudes. Comme magistrat, il devait ouvrir une information juridique et provoquer des poursuites contre le meurtrier, alors même qu'il serait hors de sa juridiction. Une pensée le consolait un peu. Burleff ne pouvait être un assassin. Il avait probablement agi en cas de légitime défense et n'avait tué son adversaire qu'en se voyant attaqué pour protéger sa propre vie. N'avait-on pu entendu d'abord deux fusils? C'était la provocation de Ned. Puis un coup de carabine, c'était la riposte de Burleff défendant son existence. Des semaines, des mois se passèrent. Burleff ne reparut pas. En attendant, la médisance et la calomnie allaient leur train. La mort de Ned, le crime de Burleff, étaient racontés par toutes les bouches avec des variantes et des exagérations effroyables. La famille Frazier s'en mêla, demanda justice, cria vengeance contre Burleff. À la fin, l'autorité supérieure s'en émut, et un beau jour, ou plutôt un triste jour, un mandat de justice fut lancé, ordonnant l'arrestation d'Ira Burleff, prévenu de meurtre sur la personne d'Edouard Frazier. Le même mandat, contenant son signalement et celui de son cheval, fut envoyé jusque dans le comté de Vermont où Burleff avait été aperçu en dernier lieu. Le désolé brigadier, ses devoirs accomplis, se tenait mélancoliquement enfermé chez lui. Et depuis cette ténébreuse affaire, la ferme de Blaisdell était devenue triste et silencieuse. Le vieillard, la tante Sarah, Lucide elle-même, ne causaient que de l'absent. Chose étrange, ce Burleff que présent elle avait repoussé, Lucidet, la bizarre jeune fille, Lucie le pleurait jour et nuit depuis sa disparition. Expliquera qui voudra ces oscillations de certains esprits féminins. Toujours est-il que la mort, en rayant Frazier du nombre des vivants, avait également effacé son souvenir de l'esprit de Lucie. Quant à la tante Sarah, elle avait toujours adoré Burleff. Il était resté envers et contre tous son favori. Les deux femmes, chaudement appuyées par Jehouten Pope, proclamaient donc sans cesse l'innocence de Master Burleff. Leur affectueuse obstination à cet égard réconfortait puissamment le brigadier qui, au fond, pensait comme elle. « Oh oui, » disait Lucie, remonte à peine ses lèvres pâles et serrant l'une contre l'autre ses mains froides et tremblantes. « Si son bras a tué, c'était pour se défendre. L'autre était dur et hautain. Il a été l'agresseur. Oh, je connais Master Burleff, et je sais mieux que vous, grand-père, mieux que personne, combien il est incapable d'une mauvaise action. » Mais je donnerai ma vie pour gage de son innocence. Patience, patience, répétait le brigadier. S'il est innocent, Dieu le défendra. Et chacun, se recueillant dans la même pensée, poussait un profond soupir, puis gardait longuement le silence.